C'est l'heure du journal de Serge Martin. Bonjour Serge.
Bonjour Eric, bonjour à tous et bienvenue dans l'horaire d'été puisqu'il est en effet bel et bien 8h. À la une de l'actualité, un retour en ce début de journal sur une journée de mobilisation hier en France. Mobilisation des Gilets jaunes pour leur 20e samedi de protestation. Des Gilets jaunes moins nombreux mais toujours déterminés. Et puis mobilisation du corps enseignant contre le projet de loi Blanquer. Dans l'actualité de ce dimanche également, des retrouvailles présidentielles, les retrouvailles d'Emmanuel Macron et de Nicolas Sarkozy ce matin sur le plateau des Glières en Haute-Savoie pour une commémoration des Maquisards tués en 1944. À suivre, la visite du pape François au Maroc, le patron de l'Église catholique qui s'est une nouvelle fois fait le porte-parole des migrants. Et puis une information France Inter selon laquelle les éditions du Seuil préfèrent reporter la publication d'un livre de Cesare Battisti, nous dira Ilana Mourioussef. À 8h10, le journal des sports présenté par Laetitia Bernard et la victoire du Racing Club de Strasbourg sur Guingamp hier soir en finale de la Coupe de la Ligue. Les Alsaciens qui ont pris le dessus sur les Bretons à l'issue d'une séance de tirs au but. Et puis à 8h20, Eric Delvaux, vous aborderez la détestation des intellectuels en compagnie de votre invité.
Oui, la chercheuse Sarah Al-Matari, elle est maîtresse de conférences en littérature à l'université Lumière Lyon 2. Elle vient d'écrire La haine des clercs, l'anti-intellectualisme en France. Le livre est paru aux éditions du Seuil.
France Inter.
Journée de mobilisation hier samedi en France. Mobilisation des enseignants et des parents d'élèves contre la loi Blanquer. Nous y reviendrons dans un instant. Mobilisation également des Gilets jaunes présents une fois de plus un peu partout en France pour leur 20e samedi de manifestation. Une mobilisation qui, à l'exception de quelques affrontements à Paris, Bordeaux, Toulouse, Montpellier et Saint-Étienne, et d'une centaine d'interpellations, s'est plutôt déroulée dans le calme. Une mobilisation qui donne lieu aujourd'hui à une polémique sur le nombre des manifestants, comme à Saint-Étienne par exemple, où les chiffres retenus par la préfecture ne correspondent pas, sans surprise d'ailleurs, à ceux des manifestants ou bien encore des observateurs. Le reportage d'Yves Renaud de France Bleu Saint-Étienne-Loire.
Combien était-il réellement ? N'en déplaise au préfet de la Loire, il n'était pas 1700, comme l'affirme la préfecture, mais sans doute plus près de 5000, comme l'attestent les photos de France Bleu et le témoignage des manifestants eux-mêmes.
5 à 6 000, c'est pas triché. Hein. J'ai l'habitude des courses à pied, on est 2000. Ouais, on peut multiplier par 3 et j'ose pas dire 4. Oui, c'est du jamais vu. Hein.
Des manifestants qui ne désarment pas malgré la sourde oreille du gouvernement.
Oui, depuis le 17 novembre, on est mobilisés et on a le sentiment d'avoir été très très peu entendus. On a envie que ça se termine, mais que des décisions politiques soient prises par le président. Hein. Sinon, on ne serait pas dans la rue.
Manifestants venus rappeler une fois encore leur colère et leur mobilisation qui reste intacte.
Vous savez ce qu'on veut.
On va partir rapidement parce qu'on est en train de bouillir là.
Bah, nous, on rentrera chez nous que lorsque nos revendications principales seront entendues déjà. On a passé l'hiver, avec le beau temps, on n'est pas prêt de rentrer.
C'est finalement la police qui va avoir le dernier mot avec force grenade lacrymogène pour disperser le cortège et ramener tout le monde au pas de course à Montieu, d'où le cortège était parti 4 heures plus tôt. Dispersion certes, mais avec un message à passer aux autorités.
Que les estimations données par les pouvoirs publics ne correspondent pas à celles des manifestants. Rien de surprenant, mais une chose est sûre, cette manifestation régionale de Saint-Étienne semble avoir fait le plein en dépit d'une baisse de la mobilisation constatée au niveau national.
Autre mobilisation et manifestation hier samedi, celle des enseignants et parents d'élèves.
Des enseignants qui, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, auraient été 36 000, plus que les Gilets jaunes, à se mobiliser hier à Paris en province contre le projet de loi Blanquer et sa réforme du lycée. Des enseignants qui redoutent que cette réforme n'aboutisse sur une école à plusieurs vitesses et la disparition de directeurs d'école dans le cadre d'un rapprochement entre collège et école, justement. Des manifestants qui entendaient également reprocher à Jean-Michel Blanquer son autoritarisme. Si on en croit le secrétaire général du SNU IPP-FSU, Régis Metzger, rencontré par Manuel Ruffez.
Aujourd'hui, le ministre n'est pas crédible et nous, ce qu'on dit, c'est que ce projet de loi ne répond pas aux besoins de l'école d'aujourd'hui ni aux enjeux d'une vraie politique éducative. Il y a une vraie colère contre le ministre. Ça frise la provocation, ce qu'il est en train de faire, en disant depuis toute la semaine qu'on étaient des répandeurs de fake news, sauf qu'en l'occurrence, on ne fait que redire ce qui est écrit dans son projet de loi, et donc aucune fake news pour nous. Il y a une inquiétude pour la maternelle, nous n'avons jamais dit, contrairement à ce qu'il prétend, que les maternelles étaient condamnées à disparaître, il y a une vraie inquiétude. Il y a une vraie inquiétude sur la direction d'école, pour la proximité avec les familles au niveau des écoles. Donc effectivement là, il faut qu'il arrête de provoquer et qu'il nous dise, remettons-nous autour de la table, on reprend les discussions à zéro et on voit comment faire une vraie politique d'éducation en France.
Des enseignants qui se sont d'ores et déjà donné rendez-vous le jeudi 4 avril pour une journée de grève et de manifestation nationale.
Une rencontre entre deux présidents, l'actuel et un ancien, ça va se passer ce matin aux Glières en Haute-Savoie.
C'est en effet sur le plateau des Glières, au lieu de la résistance, l'occupation allemande, allemande qu'Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy vont se retrouver vers 10h30 ce matin à l'occasion du 75e anniversaire de combat au cours desquels une centaine de maquisards furent tués en 44. Des retrouvailles symboliques à l'occasion de cet événement historique, mais dont la portée sera hautement politique, Cyril Graziani.
Côte à côte, la photo sera certainement très commentée. Les deux présidents s'apprécient, se respectent, se vouvoient, se consultent. Emmanuel Macron s'en inspire quand, pour répondre à la crise des Gilets jaunes, il ressuscite la défiscalisation des heures supplémentaires. Nicolas Sarkozy lui tresse des lauriers. En privé, il aurait même confié à un de ses amis « Macron, c'est moins en mieux ». Alors certes, leurs relations se sont quelque peu refroidies ces dernières semaines, avec des points de divergence notamment sur l'Europe et le cas Viktor Orban. Quand Emmanuel Macron en fait un de ses ennemis, Nicolas Sarkozy rend hommage, je cite, à son ami. Leurs rencontres se sont toujours faites discrètement. Là, ce sera au grand jour, au Glière. Ce lieu, c'est l'incarnation de l'héroïsme républicain célébré par deux présidents qui, eux, ont compris le sens de ce lieu de mémoire, glisse un intime de Macron. Justement, à moins de 60 jours des européennes, Emmanuel Macron sait aussi que s'afficher avec Sarkozy, qui reste une des personnalités préférées des électeurs de droite, ça n'est pas inutile. C'est peut-être d'ailleurs pour cette raison que Laurent Wauquiez a lui aussi fait savoir qu'il serait présent sur le plateau.
Politique toujours, Nathalie Loiseau, la tête de liste de La République En Marche pour les élections européennes, a lancé officiellement sa campagne hier à Aubervilliers devant 3000 sympathisants et membres du gouvernement. Nathalie Loiseau qui appelle l'Europe à prendre son envol.
Dernier jour de la visite du pape François ce dimanche au Maroc, il a mis à profit son séjour pour se faire une nouvelle fois le porte-parole des migrants.
Venu appeler à la coexistence pacifique entre les religions et dénoncer l'extrémisme religieux, le patron de l'Église catholique a en effet profité d'être au carrefour des migrations vers l'Europe pour aller à la rencontre de migrants, ceci dans les locaux de l'ONG Caritas. Un déplacement suivi par notre envoyé spécial Mathilde Amerti.
Sur la route de l'Europe, le Maroc n'est qu'une étape pour les dizaines d'Africains que le pape rencontre dans les locaux de l'ONG catholique Caritas. Prisca, une mère de famille du Congo, y est accueillie depuis un an.
Le 4 avril, quand il y a eu encore l'attaque dans ma région du Poule, je suis sortie avec le bébé de 8 mois. Donc j'étais obligée de chercher un pays d'accueil. C'est pourquoi je suis arrivée jusqu'ici au Maroc. Mais nous qui sommes arrivés maintenant, on n'a pas eu cette chance d'avoir les cartes. Du coup, on n'a pas du travail. C'est pourquoi je me dis que est-ce que je peux trouver un pays d'accueil avec mon fils, là où je peux rester, je peux travailler aussi.
Maintenant que l'itinéraire Libye-Italie est quasiment devenu impraticable, la principale route migratoire passe par le Maroc et l'Espagne. Et le pape François, obstinément, réaffirme son opposition aux murs et aux barrières illusoires pour lui.
La question migratoire ne sera jamais réglée en érigeant des barrières, en alimentant la peur de l'autre ou en refusant de porter assistance à ceux qui aspirent légitimement à une vie meilleure pour eux-mêmes et pour leur famille.
Au Maroc, le pape François a plaidé de nouveau pour l'élargissement de canaux migratoires réguliers afin d'éviter les drames en mer et aux frontières. À Rabat, au Maroc, Mathilde Imberti, France Inter.
À l'étranger encore, en bref, jour de vote ce dimanche en Ukraine, les électeurs sont appelés aux urnes pour le premier tour de la présidentielle. Et puis élection également en Turquie ce dimanche, il s'agit cette fois-ci d'élections municipales qui surviennent en pleine crise économique. Enfin, une information, France Inter, pour refermer ce journal, une information que nous révèle ce matin Ilana Mor-Youssef, information selon laquelle les éditions du Seuil, qui s'apprêtaient à publier un roman de Cesare Battisti, préfèrent en repousser la sortie. Ceci en raison du fait que l'ancien activiste d'extrême gauche, extradé vers l'Italie en janvier dernier, vient de reconnaître sa responsabilité dans le meurtre de 4 personnes durant les années 70. Ilana Mor-Youssef.
C'est une information que les dirigeants des éditions du Seuil auraient préféré garder secrète. Il y a un mois et demi environ, un manuscrit de Cesare Battisti arrive entre les mains d'Hugues Jalon, le président de la maison. Transmis par les sœurs Vargas, Fred, la romancière, et Jo, l'artiste peintre, soutien indéfectible de Battisti. Du bureau du président, le manuscrit est transféré à celui de l'éditrice Gwenaëlle Desnoyers, responsable de la collection Polar Cadre Noir.
Je l'ai lu immédiatement, j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur. Ce qui m'a vraiment séduite, c'est que c'est un roman très apaisé, un pur roman noir qui se déroule au Brésil, avec des pages vraiment brillantes à l'intérieur.
Le roman de Battisti devait sortir en octobre 2019, à la rentrée donc, mais ses aveux ont fait voler en éclats le calendrier et provoqué stupeur et embarras aux éditions du Seuil.
C'est un choc, c'est évidemment un choc en premier lieu. J'en ai discuté avec le président du Seuil, Hugues Jalon, avec Adrien Bosque. On a n'aurais pas envie de lire un roman de Cesare Battisti maintenant, ce serait, je pense, un peu indécent.
Mais est-ce que ça veut dire que vous renoncez totalement à publier ce roman ?
Non, je pense qu'on se laisse la possibilité de publier ce roman peut-être l'année prochaine, peut-être dans 2 ans.
Dans l'immédiat, conclut l'éditrice, on a plutôt envie d'entendre Battisti s'expliquer.
Ilana Mor-Youssef, c'est la fin de ce journal. Je vous laisse en compagnie d'Éric Delvaux.